Matin. Il y en a qui se rappellent, il y a trois, quatre semaines, je vous annonçais qu'on allait parler d'un sujet ce matin. Il y en a qui se rappellent, ça s'appelle quoi? Ça ne rappelle pas, hein? Ah, René, ça ne rappelle pas. Je fais par exprès pour agacer René, là. Alors, on a parlé il y a 4 semaines de la justice sociale. Et on a adressé le sujet de la justice sociale en fonction de qu'est-ce que la Bible en a à dire sur l'interaction entre l'Église, Dieu et les besoins de pauvreté, les besoins sociaux autour de nous. Et on a adressé ce sujet, si vous n'étiez pas là, vous pouvez retourner en début de septembre et voir sur l'Internet cet enseignement sur le sujet de la justice sociale et la Bible. Et j'avais annoncé à ce moment-là aussi qu'un film venait de sortir, et j'ai le livre ici, « Le ciel ça existe pour de vrai ». Il y en a qui l'ont déjà lu, le livre? Hein, quelques-uns. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film? Ah, encore pas beaucoup. Alors, le film était disponible au Vidéotron. Et je vous encourage à l'écouter, ça vaut vraiment la peine. Que vous soyez pour ou contre l'idée, n'a pas d'importance. On regarde tellement de films de divertissement qui sont peu constructifs. Enfin, il y en a un, au moins en tout cas, qui est constructif, qui nous fait réfléchir sur la question du ciel, que ça soit décrit justement ou non. C'est une réflexion intéressante. Et d'écouter ce film-là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et ce matin, contrairement à mes habitudes, vous savez que j'aime poursuivre des séries dans la Bible et d'aller de manière succincte et voir ce que Dieu a à nous enseigner. J'ai décidé de prendre 2 dimanches dans ce mois-ci pour être thématique avant d'embarquer dans une nouvelle série et d'adresser des sujets des sujets d'actualité. Et je pense que c'est important de temps en temps de briser notre routine. Autant c'est un défi pour le prédicateur, que c'est bon pour l'Église de toucher des sujets d'actualité et d'interagir avec des principes bibliques qui nous aident à évaluer et regarder les sujets d'actualité avec les principes de la Bible qui, elles, sont immuables, ne changent pas puisque notre Dieu, lui, est stable et ne change pas. Mais les principes qui sont là nous aident à s'adapter à chaque époque, à interagir avec toutes sortes de questions pointues et qui ne sont pas toujours évidentes à gérer avec. Et donc, ce matin, j'adresse un sujet, mais en même temps, ça vous donne des principes sur lesquels évaluer toutes sortes d'autres situations, toutes sortes d'autres sujets à travers les yeux de la parole de Dieu. Et de l'adresser d'une manière, j'espère, constructive, sans faire de jugement, mais de prendre le temps de peser les choses, avoir des nuances. Et souvent, il y a bien des choses qui se règlent avec des nuances et de l'humilité avant de trancher des sujets, d'avoir beaucoup de nuances et d'humilité en l'abordant avec les Écritures et d'être clair où les Écritures aussi sont claires. Des fois, on aimerait ça que les Écritures soient plus claires sur des sujets. Des fois, on n'aime pas les zones grises. On aimerait ça que ça puisse dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». On aimerait ça pas être obligé de gérer avec des sujets où c'est pas tout écrit et qu'il faut, avec notre conscience chrétienne, aller dans la prière, demander à Dieu de nous donner la sagesse pour interagir avec ce sujet-là d'une manière constructive et qui honore Dieu. On aime ça les affaires toutes clair, carré, c'est dans une boîte, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais la vie n'est pas ainsi. Combien savent que la vie n'est pas ainsi? Ah, c'est bon. Parce que dans ma vie, c'est pas de même en tout cas. Plus jeune, ce l'était de même, me semble. J'arrivais à tout rentrer d'une boîte, me semble. Et j'ai fait bien des erreurs. J'ai été humilié plusieurs fois à mettre des affaires dans des boîtes qui n'étaient pas si claires que ça. Et avec les années, de découvrir qu'il y a bien des choses que je voulais qu'ils soient noires ou blancs. Mais finalement, beaucoup de choses sont grises et demandent plus de jugement et de foi en Dieu pour aller voir Dieu, le consulter et demander de la sagesse pour peser les sujets à chaque fois et demander l'avis de Dieu plutôt que de tout mettre sans réfléchir dans la même boîte, de vrai ou faux, ou mal ou bien. On a besoin de réfléchir un peu mieux. Et c'est plus difficile, ça, parce qu'il faut réfléchir sur un sujet plutôt que de le catégoriser vite fait. Et ça nous demande plus de foi. Ça demande à retourner continuellement à Dieu pour lui demander de la sagesse. Ça nous demande d'avoir une vie de prière pour parler à Dieu. Ça nous demande aussi d'aller dans les Écritures pour gratter et chercher les principes qui vont m'aider à juger. Et ça, bien, ça demande du travail. Ça demande du temps. Ça demande du temps aussi de tranquillité avec Dieu pour le consulter. C'est plus difficile quand on est obligé de réfléchir et de peser que pas réfléchir, tout est noir ou blanc, j'ai pas besoin de me casser la tête, ding, bang, bang, puis j'ai réglé ça, puis là, je suis bien avec moi-même. Hein? Mais peut-être vous êtes bien avec vous-même, mais les gens autour de vous ne sont pas aussi bien avec vous-même. Parce que vous êtes tranchant, des fois sanglant peut-être, porté à juger, plutôt que d'écouter. C'est bon de prendre le temps d'écouter deux fois plus que de parler. Et peut-être c'est pour ça que Dieu nous a donné deux oreilles puis une bouche. Écoutez un peu plus, parler moins, ça nous amène à moins pécher, et parler avec plus d'informations pour parler de manière plus éclairée. Et c'est souvent le cas. Des fois, on va dire, « Oh non, c'est sûr que c'est pas bon. » Attends, tu peux? Pourquoi c'est pas bon, au juste? Toutes sortes d'affaires vite faites, des petites pognes vite faites. Tu peux? As-tu réfléchi? L'as-tu vu? As-tu posé des questions? Sais-tu des entendu dire de... Et finalement, si on parle trop vite, des fois, on n'a pas fait nos devoirs, et là, on se ramasse à être un peu humilié parce que c'était pas aussi simple et clair. Et ça, je l'ai fait souvent. Souvent. Et le Seigneur m'a humilié après quelques fois que là, j'essaie de moins le faire. Mais ça dépend des tempéraments. On a des tempéraments des fois plus tranchants et des tempéraments plus accommodants. Et pour le tempérament plus tranchant que je suis, on aime ça catégoriser, prendre position, puis tout couper au couteau. Et on peut pécher si facilement. Avant de commencer, je vais vous inviter à écouter la bande-annonce. Et ce n'est pas un teaser, c'est plus autant pour vous informer, avoir une idée de qu'est-ce que ça présente. Alors, la bande-annonce devrait être prête pour qu'on puisse l'écouter. Ça dure 2 minutes, et après ça, on va embarquer dans le vif du sujet. Alors, vous avez vu un extrait. N'allez pas juger trop vite. C'est qu'un extrait. Et ceux qui... ont vu le film et qui ont lu le livre, comme la plupart du temps, s'il y a une grosse différence entre les deux. Hein? Combien ont déjà regardé un film avant d'avoir lu un livre? Quelques-uns qui ont fait l'expérience, hein? La plupart des gens qui ont lu un livre sont déçus du film. Ça vous est arrivé? On m'a souvent dit ça. J'ai pas souvent fait l'expérience, mais moi j'ai lu le livre après. Et j'étais content d'avoir lu le livre parce que le film n'était pas vraiment en train de toujours suivre. C'était le livre. Il y avait des choses qui étaient évidemment plus romancées, travaillées. C'est un film. Ça demeure un film. OK? Et donc, c'est important de faire beaucoup de nuances à ce niveau-là. Si vous avez vu le film, mais vous n'avez pas lu le livre. Le livre a beaucoup plus d'informations précises et d'informations qui aident à mieux juger la situation qu'un simple film. Mais le film est très beau, très intéressant, vous amène sur le bord des larmes et à plusieurs occasions. Et ceux qui ont vécu, il y a tellement d'expériences dans le film qui sont vécues, liées à la maladie d'un enfant, liées à la mort, liées à les relations dans l'Église. Il faut savoir que Todd Burpo, le papa, est pasteur. Et c'est vraiment un pasteur évangélique. Et quand vous lisez le livre, c'est une chose qui est bien claire, c'est que l'Évangile y est. On parle du péché. On parle de Jésus clairement. Jésus est très, très présent et central dans l'expérience de son fils. Et on y présente l'Évangile. Et c'est un pasteur qui parle, et ça paraît. Et il est pasteur d'une église wesleyenne. On n'a plus d'église wesleyenne ici au Canada, mais c'est des églises évangéliques très populaires aux États-Unis et qui sont des églises vraiment évangéliques. En fait, on appellerait ça aujourd'hui méthodiste ici au Québec, si je ne me trompe pas. Alors, il y a une vieille église wesleyenne il y a 200 ans dans le centre-ville. On voit encore la petite pancarte d'une vieille église wesleyenne anglophone. Alors, qui est une petite... j'oublie c'est quoi, un petit resto de donnant français, quelque chose comme ça, très cute, comme Baptiste, très, très vieux. Et donc, c'est un pasteur évangélique, et je l'ai écouté aussi pendant mes vacances au mois d'août. J'étais j'ai pris un moment donné où j'ai commencé, on a regardé le film, et j'ai pris le temps de regarder aussi sur l'Internet son église, sa prédication. Il venait d'aller aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Israël pour la première fois. Il a été pendant la crise entre Gaza et Israël, et il est amené là d'un voyage spécial avec une quinzaine de pasteurs. Il a fait l'expérience d'aller visiter des endroits qu'on ne va pas visiter normalement, et une situation d'opportunité qu'il y a eu. Et donc, il racontait le dimanche matin son expérience, et c'est vraiment une église évangélique qui prêche la Bible comme autorité finale sur ce qui est la vérité. Et donc, en partant, c'est important à savoir... Et vous pouvez facilement trouver le site Internet et tout ça pour en connaître plus sur le personnage. L'histoire, dans le fond, du livre raconte l'histoire d'un enfant qui, dont les parents ont vécu l'expérience où leur fils est venu proche de la mort. Rien n'est dit sur le fait qu'il soit mort, mais on l'apprend à la fin du livre que finalement les infirmiers avaient été avisés par le docteur, « Donnez pas d'espoir aux parents. » Et les infirmiers étaient habitués que si tu dis ça à un parent, ben, d'habitude, c'est parce qu'il ne sort pas de la chambre d'opération vivant. Et dans ce cas-ci, il est sorti de la chambre d'opération vivant. Et il faut savoir que le pasteur, à ce moment-là, avait reçu un surnom Il s'appelait, depuis un certain temps, les gens de la communauté, d'autres collègues l'appelaient Pasteur Job. Parce que depuis un certain temps, coup après coup, ça faisait un an que c'était, il y a une bonne expression, faut pas que j'utilise cette expression-là, mais les problèmes, ils couraient après. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça arrêtait pas un arrière de l'autre. Chevilles cassées, les pierres au foie, problèmes financiers. Un arrière de l'autre, ça arrêtait pas et ça allait pas bien et ça s'est couronné par ce problème-là qui les a amenés à l'hôpital et qui a empêché de travailler pendant 3 semaines. Les problèmes financiers ont juste augmenté. C'était les États-Unis. Alors, ils reçoivent des belles factures après ça de 35 000, etc. Alors, même si tu as une assurance, tu as des grosses parties qu'il faut que tu payes quand même toi-même. Et ils l'ont surnommé à cette époque-là Pasteur Job parce que ça arrêtait pas, un arrière de l'autre. Et il raconte cette expérience-là et c'est très intéressant pour nous croyants de suivre un peu les défis interne qu'il a vécu devant les épreuves de la vie, qui l'a amené à poser des questions à Dieu. Comment ça, Seigneur? Comment ça? Et il amène des bonnes réflexions sur ces épreuves qu'il a vécues dans sa vie avec son épouse et aussi la part de l'Église qu'il y avait à travers cela. C'est un homme qui ne pouvait pas être pasteur à plein temps d'une petite ville de 1700 personnes. Pasteur d'une communauté où il avait sa propre job, à poser des portes de garage et en même temps de travailler dans l'église, d'être l'aumônier pour les pompiers et en même temps être coach pour la lutte. Typiquement, ce qu'un pasteur fait dans des petites villes où il ne peut pas être à plein temps, et il se partage à plusieurs tâches et il travaillait fort. Et il est confronté à cette situation-là où son fils passe proche de la mort. Et son fils, finalement, au cours des quelques mois qui ont suivi, a commencé à dire à son père, dans toutes sortes de situations de la vie, et raconter une vision qu'il a eue d'avoir été au ciel à cette occasion. Une vision qu'il n'aura pas une autre occasion dans sa vie. Et qu'il raconte cette expérience-là d'avoir été au ciel. Et ça sort petit bout par petit bout d'un petit bout qui a 4 ans, qui vient d'avoir ses 4 ans. Et ça s'est passé à la fin de ses 3 ans, cette expérience-là. Évidemment, comme tout sceptique, on se dit, en plus, c'est raconté d'une manière un peu plus enfantine, c'est un langage d'enfant. Comment décrypter ça comme adulte aussi, parce qu'il y a des mots qu'il ne connaît pas de vocabulaire, décrire ce qu'il a vécu. Et là, encore moins attaquer la crédibilité, parce que c'est de l'enfantillage, c'est des fantaisies vécues au travers une expérience proche de la mort. Certains ont décrit des expériences proches de la mort, où ils voient le tunnel, puis la lumière au bout, et certains ont fait des recherches pour montrer que c'est une expérience qui est liée à ce qui se passe dans le cerveau, et c'est pas des expériences d'aller au ciel. Il y a toutes sortes de documentations qui ont été écrites là-dessus, des gens ont écrit des livres, des recherches, des gens ont fait des expériences même de se faire mourir pour revenir, etc. Il y en a qui ont vu peut-être des films à ce sujet-là, et c'est pas concluant à toutes ces questions-là, mais là, ici, on a un petit garçon qui raconte des choses assez particulières. Petit garçon qui ne sait pas que sa maman a déjà eu un bébé qui est mort, pour lequel il ne connaissait même pas le sexe de l'enfant. Et qui, là, cet enfant-là qui a 3 ans et 10 mois, qui vit cette expérience-là et qui raconte finalement à un moment donné à sa mère qu'il savait qu'il avait une autre sœur, puis que cette petite sœur-là, dans sa vision, était venue le voir, puis lui avait dit que c'était son frère. Mais lui, il ne savait pas qu'il avait eu un bébé qui était mort. Aucune idée. Il raconte cette expérience-là. Imaginez, ça bouleverse assez une mère pour la troubler un bon petit bout de temps à réfléchir. Là. Ça fait partir un hamster là, pour comprendre c'est quoi qu'il me raconte là, d'où ça vient cette histoire-là, comment il peut avoir ces informations-là. À raconter une expérience d'avoir été assis sur les genoux de Jésus, d'avoir rencontré le Seigneur Jésus et que Jésus lui a présenté son cousin, Jean-Baptiste. Mais son petit bout-là, il ne savait pas que Jean-Baptiste était son cousin dans la vraie vie. Sur terre. Et là, une en arrière de l'autre, des expériences qui sont racontées, même liées au grand-papa de son père, qui était mort à 61 ans d'un accident d'auto prématurément, et dont il avait seulement vu à la maison une photo de lui âgé. Et il raconte avoir rencontré le père de son père, le grand-père de son père, avec lequel il avait un lien très proche. Et les photos qu'il lui a montrées, il dit « Non, c'est pas cet homme-là. » Et un jour, La grand-mère est arrivée avec une photo du grand-papa jeune. Et là, il a montré à son fils une photo qu'il n'avait jamais vue. Puis il a dit, c'est lui que j'ai vu. Une version du grand-papa, mais dans la vingtaine, à 29 ans. Et tout à coup, il le reconnaissait. Ça crée des questions, n'est-ce pas? Et une en arrière de l'autre, des expériences comme ça, mais toujours en même temps, comme pasteur, je lisais ça, puis à chaque fois, par contre, toujours lié à la personne de Jésus-Christ, sans jamais miner les Écritures sur ce qui était partagé. Alors, assez troublant, parce qu'en même temps, il n'y a rien qui vient à l'encontre des Écritures, mais en même temps aussi, rien vraiment de nouveau, honnêtement. Après avoir lu le livre au complet, tu lis pas non plus une nouvelle révélation du ciel que hey, si ça c'est vrai, ça vient à l'encontre des Écritures, ou si ça c'est vrai, c'est comme une nouvelle information plus précise ou plus importante que la Bible. En même temps, il n'y avait pas vraiment de nouvelle information. Et à travers le livre, donc, le pasteur échange beaucoup d'informations qu'il apprend et qu'il dit « Ah, ça me rappelait un passage des Écritures qui parle de Jésus de cette façon-là ou qui parle de cette information de cette façon-là. » Et qui voit simplement une concordance entre ce qui est exprimé et que ce petit bout-là raconte dans ses mots d'enfant l'expérience d'avoir été au ciel et que ça sort petit bout par petit bout. Toutes sortes d'informations. Avoir rencontré même une des questions que les catholiques posent quand ils font des conférences, ils disent « Est-ce qu'il a vu Marie? » Puis ils racontent l'histoire d'avoir vu Marie qui était à genoux devant Jésus et que Jésus aimait sa maman Thérèse qu'il avait eue, tout comme il avait un lien dans le fond avec Jean-Baptiste. Assez étrange, en même temps, ce sont des détails que la Bible ne nous dit pas sur toutes ces interactions-là personnelles. Est-ce que je vais reconnaître ma femme au ciel? La Bible ne dit rien à ce niveau-là sur est-ce qu'on va reconnaître tous nos proches. S'il y a de quoi, il y a des petits indices que c'est possible, puisqu'on voit Abraham, dans une vision que Jésus parle, d'être reconnu avec l'homme qui va en enfer et qui demande à Abraham d'envoyer quelqu'un, etc. Il y a des informations qui pointeraient dans ce sens-là, mais sans que ça soit détaillé. Et le Seigneur n'a pas vu bon de nous donner toutes ces informations-là dans les Écritures. Il semble qu'on ait reçu ce qui était suffisant pour nous à savoir sur le ciel. Mais en même temps, il faut être honnête, notre vision du ciel est embêtée souvent. Souvent, on a des visions du ciel tellement pathétiques que ça ne donne pas le goût d'y aller. Vous comprenez? Parce que c'est sûr que si c'est des nuages avec des petites banderoles blanches qu'on porte, avec de la harpe, même moi, j'aurais pas le goût d'y aller, honnêtement, là. Un peu simpliste, puis heureusement, Dieu merci, la Bible ne présente pas une vision simpliste comme ça de gens tout nus ou à moitié tout nus avec une banderole blanche en train de jouer de la harpe sur un nuage. On n'est pas dans Astérix et Obélix, là, hein? Avec les dieux qui sont dans les nuages, puis des niaiseries comme ça, là. Tu sais, c'est des comiques quand même. Mais veut pas, on regarde plein de films avec des visions du ciel dedans, et veut pas, il se fait qu'on a une vue distorsionnée. Alors, je vais demander si c'est possible d'enlever les lumières ici dans ma face, j'ai de la misère à voir les gens, là. Puis d'allumer un peu les lumières dans la salle pour que je puisse vous voir, là, parce que fatiguant. Et ça nous donne un défi d'avoir une bonne vision des choses à cause de ça, parce qu'on est influencé, veut pas, par ce qu'on voit, hein? Et si on lit beaucoup les Écritures, on va être imprégné, donc, d'une vision biblique. Mais en regardant tout ce qu'on nous présente autour, ben tu dois gérer avec ce que tu vois dans la Bible puis ce qui est raconté, et c'est peu incitatif à vouloir le ciel, honnêtement. Et je me rappelle un jour, en 98, je passais à une émission peu recommandable qui s'appelait Blackout, puis à un poste peu recommandable aussi. Puis il y a un monsieur, on était dans un bar, d'un underground bar sur la Sainte-Catherine. Il y avait des sketchs faits par des travestis. C'était pas un super lieu, mettons, là. J'étais vraiment là avec ma Bible, en tenant ma Bible très attaché après moi, là. C'est une expérience assez radicale. Puis ça passait à la télévision devant plus d'un million de personnes. Et à un moment donné, il y en a un fendant qui se trouvait vraiment cool. Puis bon, il y avait bien du monde réchauffé aussi dans l'endroit, là. Ça aidait pour l'atmosphère de l'enregistrement, j'imagine, là. Et le monsieur, il lance en disant, « Moi, en tout cas, là, j'ai hâte d'aller en enfer, parce qu'en enfer, là, ça va être cool, il va y avoir de la musique rock, puis ça va être vraiment le fun, il va y avoir de la drogue, puis là, OK! » Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'il y a une mauvaise vision du ciel, il y a aussi une mauvaise vision de l'enfer. Hein? Et les gens gèrent avec une vision de l'enfer que finalement, c'est l'endroit de party. Il me rappelle quand ça se passait, j'ai tout de suite tourné dans Luc, j'étais en train de passer à l'histoire, là, dans le chapitre 16 de Luc, du gars qui est en enfer. Puis là, j'ai fait un petit signe au colon qui dirigeait l'émission, là, Gillette. Vous avez entendu parler de Gillette, là? Vraiment un colon, désolé, mais il n'y avait pas d'autre mot pour ça, là. C'était vraiment animateur, là, vraiment provocateur, qui détestait Dieu. Et aujourd'hui, ben, il n'y a plus une réputation, hein. Ceux qui ont suivi l'histoire à Québec, là, il s'est ramassé finalement, là, avec une mineure, puis toutes sortes d'affaires. C'était pas drôle. Mais à cette occasion-là, j'avais ce texte-là, je me disais, il faut qu'il entende parler de quelqu'un qui est en enfer. Comme Jésus le raconte, il raconte l'histoire d'un homme qui est en enfer. Puis à quoi qu'il pense le monsieur en enfer? Puis qu'est-ce qu'il demande à Dieu le monsieur en enfer? Mais on m'a coupé la parole, puis évidemment l'émission donnait pas toutes les choses. C'est une émission d'une heure qui s'est faite sur deux heures, fait qu'ils ont coupé de la moitié de ce qui se disait. Et c'est la pensée qui m'est venue tout de suite, cet homme-là, si seulement il pouvait entendre et lire ce qu'un homme qui le vit dit de l'expérience d'être en enfer. Tout comme aussi celui d'être au ciel. Et ce matin, je vous raconte et je vous parle de ce livre-là, et j'en crois que c'est une bonne lecture, mais sans jamais vous dire que ce qu'il a vécu, c'est une vraie expérience du ciel. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas si c'est une vraie expérience du ciel ou pas. Parce qu'en même temps, je sais aussi que le Seigneur, dans sa miséricorde, fait parfois aussi des gestes qui sont complètement en dehors de la boîte que j'ai de Dieu. Hein? Et je sais que dans des endroits du monde où ce que les gens ne pouvaient pas lire la Bible, le Seigneur a permis que ces gens-là, des fois, aient des visions pour que le Seigneur interagisse avec eux, pour qu'ils aient la parole de Dieu. Je sais en même temps que même si le parler en langue au Québec ne ressemble pas dans des églises évangéliques quand ça arrive à le parler en langue biblique, je sais en même temps qu'à des endroits du monde, il y a des récits de gens qui ont eu du parler en langue, puis ils parlaient dans une vraie langue, ils ont pu parler de l'Évangile avec quelqu'un dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est possible. Dieu n'est pas et ne peut pas être mis d'une boîte juste parce qu'on le voit de telle ou telle façon en Amérique du Nord et qu'on connaît par expérience chrétienne dans nos églises évangéliques Dieu de telle ou telle façon. Juste quand on met Dieu dans une boîte, ça devient dangereux parce que finalement, il nous humilie en nous montrant qu'il ne fit pas dans la boîte. Et Dieu peut se présenter à l'homme de la manière dont il voudrait, qu'il veut. Il a cette liberté-là complète. Et s'il veut parler à un être humain à travers une vision pour y parler dans son appel, comme il l'a fait aussi avec Paul, c'est pas conventionnel, là. Des animaux qui voient un ange puis qui rentrent dans le mur, puis la vision de Paul, la vision aussi du monsieur qui... Balaam, tu sais, avec des animaux que Dieu utilise pour te parler. Tu sais, ça fait vraiment pas conventionnel dans les Écritures. On s'entend-tu? Et le Seigneur n'est pas limité de nous parler, de nous rencontrer d'une façon ou d'une autre. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le livre qu'on tient dans nos mains ici est parole de Dieu. Et a été éprouvé. Et si vous avez des doutes sur l'aspect que la Bible, scientifiquement, on peut prouver qu'elle n'a pas changé depuis 2000 ans. Il y a un beau traité à la sortie, vous le prendrez, qui dit « La Bible est-elle fiable? » Un petit traité bien simple. Mais qui s'amène d'une réflexion pour dire avant de dire que la Bible n'est pas fiable et qu'elle a changé comme beaucoup de gens peuvent le dire, ben, il faut lui faire nos devoirs scientifiques et vérifier si c'est le cas, parce que ça se vérifie ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Et il y a un beau traité derrière qui montre l'aspect scientifique de dire « Ce que là, crois-y pas, mais viens pas dire une aberration comme ça a changé depuis 2000 ans. » Parce que ça, c'est un manque d'études et de compétences d'avoir vérifié les faits dans le monde entier et fait ses recherches. Puisque c'est prouvé que ce livre-là n'a pas changé. On a des documents qui datent de 2000 ans. On peut le vérifier dans différentes langues, etc. Alors maintenant, c'est une autre étape de le lire et de vérifier. Est-ce que son contenu, par exemple, après ça, son contenu, il faut que j'étudie. Est-ce qu'il est cohérent? Est-ce qu'il est parole de Dieu? Il peut ne pas avoir changé, mais est-ce qu'il est parole de Dieu? Et pour notre part, comme Église évangélique, si on se dit évangélique, c'est qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle contient des vérités immuables sur Dieu et des récits du passé qui ne sont pas conventionnels aussi, où Dieu a parlé à l'être humain, et qui sont autoritaires et qui étaient reconnus comme étant parole de Dieu. Et on peut seulement le savoir en ayant fait l'expérience, comme tous ceux qui se disent chrétiens, d'avoir fait leurs recherches, lu les Écritures et mettre à l'épreuve son contenu, à savoir ce qu'il dit est-il vraiment vrai. C'est une chose qui n'a pas changé, le texte. C'est une autre chose, c'est que son contenu est vrai. Et si on est évangélique, c'est qu'on croit qu'elle est vraie, la parole de Dieu, et que tout ce qu'on a de besoin est là. Mais ça n'empêche pas Dieu, pour une raison X, d'un jour intervenir puis de permettre un miracle dans la vie de quelqu'un et lui donner un sursis de temps. Ça n'empêche pas Dieu d'intervenir de toutes sortes de façons à travers le monde entier, dans toutes sortes de langues, dans toutes sortes de cultures, toutes sortes de contextes peu favorables pour connaître l'Évangile, que Dieu va se manifester d'une manière qu'il veut, que lui veut bien. Et il n'a pas à le justifier auprès de nous. Mais en même temps, on doit vérifier est-ce que ça c'est conforme aux Écritures pour le mettre à l'épreuve. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Le danger avec les gens qui ont écrit des livres et tout ça, et je vous donne un exemple. Il y a un monsieur qui s'appelle Don Piper aussi, un pasteur baptiste, qui raconte l'histoire de ses 90 minutes au paradis et qui a été ressuscité des morts en 2004. Il raconte son expérience personnelle. et ce qu'il aurait vécu au ciel. Et il faut faire attention à ces expériences near-death experience, qu'on appelle en anglais, mais expériences de mort imminente, ou que toutes sortes de choses sortent de ces expériences-là. Il y a un autre livre d'un monsieur, un best-seller, qui est sorti, Bill Weiss, en 2006, un New York Times best-seller, 23 minutes en enfer. Et il mentionne dedans, entre autres, l'information que l'enfer est à 300 degrés et zéro d'humidité, taux d'humidité. On n'avait pas cette information-là. Quand même. Je sais pas s'il a traîné son baromètre ou... je sais pas, là, j'ai pas eu cette information-là, mais... Alors, tout ça pour dire, il y a toutes sortes de livres, toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'expériences. Et là, si on veut commencer à se garocher dans les livres d'expériences, là, vous en avez pour longtemps. Puis, vous avez de quoi vous griller, aller sur l'Internet, vous allez en lire des aberrations, puis des histoires de toutes sortes. Parce que, veux pas, ce sont des expériences. Et des expériences demeurent des... expériences. Et si on veut commencer à tirer des vérités, de l'autorité dans les expériences et un guide dans les expériences, nous allons avoir une vie qui va vaciller à tout vent, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a toutes sortes d'expériences, toutes sortes de gourous, toutes sortes de dires, et là tu peux passer ta vie à aller d'une expérience à l'autre. L'expérience n'est pas source d'autorité et doit être assujettie à ce qui est stable, à ce qui est un repère et ce que la Bible est. Ce repère stable, sûr, éprouvé qu'est la Bible. Et donc, en éprouvant ces choses dites par toutes sortes de monde, bien, on peut arriver à avoir un meilleur jugement sur les situations qui nous sont dites et proposées. Et je vais vous donner quelques exemples dans le livre, mais aussi quelques principes à ce niveau-là que j'aimerais vous donner. Cette semaine, je me suis préparé en toute simplicité en lisant le livre, en allant sur l'Internet pour aller voir aussi ce que certaines personnes ont à dire sur le livre, d'un bord et de l'autre, des évangéliques, des articles de journaux, reportages ou des vidéos d'enseignement sur comment évaluer de telles situations. Et j'aimerais vous offrir, en commençant, quelques principes importants face à ces expériences-là à vous donner comme guide pour réfléchir à cette question-là. Et entre autres, j'ai un homme que j'ai écouté sa présentation et il donnait pourquoi ces expériences-là sont dangereuses comme guide. Et je vous offre quelques réflexions. Et j'ai pas pris toutes parce que toutes ne seront pas nécessairement utiles, mais je vous en donne quelques-uns. Les expériences proches de la mort sont influencées généralement par des prédispositions. Donc, c'est-à-dire le contexte dans lequel on a grandi, les informations qu'on nous a dites, l'âge, la culture, c'est des prédispositions qu'on appelle, OK? Et donc, ces visions-là, lorsqu'on les observe, il y a des présuppositions qui influencent et qui sont là lorsqu'on regarde et qu'on analyse ces différentes visions des personnes ont reçues en général. Et ça amène une coloration aussi de ces visions. Dans son cas, il utilisait justement, par exemple, celui d'un enfant. Donc, l'idée des ailes, des couleurs, animaux qui pourraient être considérés comme justement des choses enfantines, on va dire, OK? Deuxièmement, souvent, ces visions, lorsqu'on les compare ensemble, sont très variées et conflictuelles. Si un dit une affaire, un dit une affaire, puis ça, OK, là, ça marche vraiment pas. Dans ça, là, ils disent qu'il y a des ailes, puis dans l'autre, ils disent que, je sais pas, moi, c'est ci ou c'est ça. Puis quand tu regardes ces différentes visions-là, il y a tellement de contradictions, à un moment donné, tu te dis, il peut pas tout avoir eu une vraie expérience réelle, source de vérité. Parce que sinon, il y a tellement de variété dans ce qui est dit de ces visions-là, de gens qui ont vécu des expériences, que c'est un non-sens. C'est pas comme si tout le monde avait une même expérience. Puis quand il en parle, c'est comme « Ah oui, moi c'était pareil! Ah oui, moi c'était pareil! » Puis là, ils écrivent tous des livres, puis c'est comme si c'était tout parlé entre eux autres, puis il y avait un complot, là, tu sais. Alors, c'est le contraire, on dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont jamais parlé l'un l'autre, là. Puis ils ont vraiment toute une expérience tellement différente que ça devient même déconcertant. Tu dis, OK, il y a des fabulations, il y en a qui ont fait des overdoses, il y en a qui ont vraiment fumé avant de se coucher, mangé de la pizza trop tard, tu sais, vraiment toutes sortes d'explications pour cette divergence d'expérience, de vision du ciel ou de l'enfer ou d'expérience, en tout cas, de mort imminente. Troisième chose aussi, il faut faire attention aux expériences expérience que les gens peuvent avoir vécu, même d'être passé de la mort à la vie, mort quelques minutes, etc., et revenir à la vie. Et il y a une différence entre ceux qui sont passés proches de la mort et ceux qui ont vécu une mort et qui sont revenus à la vie aussi. Il y a une différence là, comme expérience. Où est-ce que ton cœur a arrêté, il y a eu un arrêt, il y a eu une mort biologique et un retour à la vie où tu es passé proche de la mort. C'est très différent. Un état de mort clinique ou la mort. Et c'est pas aussi comparable à la mort à la fin où est-ce que tu reviens jamais. Tu as beau parler d'une expérience de proche de la mort, d'une expérience d'être mort et revenu à la vie. Mais c'est aucune de ces expériences-là que l'être humain va vivre, chacun d'entre nous, de mourir et de plus jamais revenir. N'est-ce pas? C'est pas le même type d'expérience. Et il faut faire attention. Et donc, il y a une définition qu'un auteur a mis pour définir un peu c'est quoi ces expériences-là. Il dit ceci. Une expérience proche de la mort est le souvenir subjectif d'une expérience qui est arrivée pendant un état d'inconscience précipité par une crise médicale, un accident, un suicide, un arrêt cardiaque ou chose comme ça. Comme tel, n'est pas fiable comme moyen de déterminer ce qui nous attend après la mort. Je répète cette phrase-là, OK? Une expérience proche de la mort est le souvenir subjectif. Vous comprenez ce que veut dire un souvenir subjectif? C'est un souvenir en fonction de comment je l'ai perçu, ressenti et que je l'ai vécu personnellement. Donc, un souvenir subjectif d'une expérience qui est arrivée pendant un état d'inconscience précipité par une crise médicale, crise cardiaque, accident, etc. Comme tel, n'est pas fiable comme moyen de déterminer ce qui nous attend après la mort, puisque c'est une expérience subjective et sujet à beaucoup de controverses comme source autoritaire de ce qui se passe après. C'est pas avoir être vraiment mort depuis quelques années puis d'être revenu pour nous le raconter. Ça, on l'a pas. C'est des expériences proches de la mort. Une expérience d'être mort temporairement pendant quelques minutes et revenu, mais pas la mort finale de l'être humain et revenir pour nous raconter qu'est-ce que c'était les 10 dernières années au ciel. Puis, je suis certain qu'on serait tous à voter ici, on serait content que quelqu'un l'ait vécu puisse venir nous le raconter, n'est-ce pas? Pour venir nous confirmer certaines informations, Dieu n'a pas vu bon que cela soit. Et il doit y avoir une raison pour cela. C'est dangereux aussi de se tourner vers l'expérience de quelqu'un plutôt que vers la Bible. Et le danger, dans ce cas-ci, puisque c'est un pasteur évangélique, puisqu'il ne semble pas y avoir de malice dans ce qui se fait, il n'y a rien que j'ai lu aussi comme accusation de frauduleuse ou d'accusation quelconque à son égard, même dans son ministère où ce qu'il est, il est demeuré à la même église, il est là depuis 17 ans comme pasteur, fidèle à s'occuper du troupeau que Dieu lui a confié à prendre soin, à enseigner, à encourager, etc. Et eux ont pris soin de eux aussi dans leur moment de crise, lorsqu'ils ont été à terre. Ça fait partie des leçons de vie qu'ils partagent. Ils ont été habitués comme pasteurs de donner, de prendre soin. Et là, on l'a vécu ici, le brisement, où ce que là, c'est nous que les gens avaient besoin de prendre soin. Puis ça a été une expérience de brisement tellement bon qu'il partage pour lui et sa femme de l'avoir vécu, alors que c'était tout le temps lui qui donnait dans son expérience et qui, à cause de ça, il avait un certain orgueil. Moi, c'est moi qui suis le top de tout ça, qui prend soin. Là. Puis, ça a été une expérience vraiment bon de brisement qu'ils ont vécu. Ils le partagent à la fin du livre. Mais tout ça pour dire que même si rien n'est dit de négatif sur son ministère, comme pasteur évangélique, qu'il n'y a pas de malice ou vu de preuves de fraude, il est dangereux de se confier dans une expérience comme ça plutôt que dans la parole de Dieu. Et ça peut être facile de dire, « Ah, ben justement, l'autre, il raconte justement ça, ça arrête de l'allure. » Ça demeure un récit intéressant qui peut être édifiant et nous amener une bonne réflexion sur la question du ciel et d'y penser plus. Et des fois, une image vaut mille mots. Et ça peut être provocateur de réfléchir parce qu'on ne pense pas souvent au ciel, malheureusement. Tellement pris dans le brouhaha, les occupations, qu'on néglige de réfléchir à cette destinée éternelle que Dieu nous a promis. Et vous savez, la Bible nous dit que celui qui est croyant, maintenant, a déjà la vie éternelle. J'étais chez un couple que je visitais dernièrement, puis on lisait dans le livre de l'Épître de Jean. Et dans l'Épître de Jean, à un certain moment donné, il dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, etc. Puis il dit que vous avez la vie éternelle au présent. Vous qui croyez, vous avez la vie éternelle. Vous l'avez déjà maintenant. C'est pas dans le futur, quand vous allez mourir, vous allez avoir la vie éternelle. C'est que si tu deviens un enfant de Dieu, tu as la vie éternelle maintenant. De ton vivant, même si tu vas mourir physiquement, tu vas continuer après ça dans l'éternité avec notre Créateur. Et donc, on a maintenant, c'est notre espérance. Et Jean, il voit ça comme tellement important qu'il le mentionne comme étant son but qu'on connaisse qui est le Fils de Dieu et que quand on croit en lui, on a la vie éternelle dans son épître de Jean. Je vous invite à lire ça dans le chapitre 5. Et donc, c'est important, cette autorité-là qu'on a, et de ne pas être séduit à vouloir placer notre foi ou ça peut être édifiant. Encourageant, une bonne réflexion, mais ne demeure pas une source d'autorité. C'est les Écritures qui sont une source d'autorité et ça n'enlève rien à l'autorité apostolique que Dieu a donnée à ses disciples qui ont vécu avec lui, qui l'ont vu ressusciter, qui sont des témoins de ce que Jésus a fait et enseigné et qu'on retrouve justement dans les auteurs du Nouveau Testament dont les enseignements ont été gardés pour nous depuis 2000 ans et qui n'ont pas changé et qui ont été mis à l'épreuve et dont les vérités centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, transforme et fait des miracles encore aujourd'hui. Je l'ai vu encore cette semaine. Des choses que juste Dieu seul peut faire. Juste Dieu, personne d'autre. Il y a aussi une accusation, peut-être que ceux qui vont lire disent que le livre annonce qu'à la fin des temps et bientôt, et que c'est quasiment comme s'il y avait une date. Et là, j'étais curieux de ça, je disais, oh, c'est-tu vrai ça? J'ai lu le livre et il n'y a absolument aucune idée dans le livre de savoir quand est-ce se passe le retour du Seigneur. Il mentionne que d'avoir vu son Père se battre à la fin des temps. Mais est-ce que c'est dans un nouveau corps à la fin des temps, comme la Bible parle, que les croyants vont venir avec le Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps et combattre le mal et que finalement Satan va être envoyé en enfer pour toujours? Est-ce que c'est la bataille d'Armageddon avant l'enlèvement? Ce sont des détails qui ne sont pas spécifiés. Et donc, il n'y a rien qui est donné sur l'idée que le Seigneur revient dans la vie de son Père, etc. Le livre ne spécifie rien du tout à ce niveau-là, et ce n'est pas vrai. Par contre, il y a une chose qui trouble, c'est à un moment donné, il utilise la phrase que son Fils est un témoin oculaire du ciel. Et ça chicote. Parce que là, si c'est un témoin oculaire, on ne peut pas s'assassiner bien avec toi. Hein? Et je crois que c'est pas une bonne manière de le dire, parce qu'un témoin oculaire, c'est un témoin oculaire. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vu. Tu peux pas t'ostiner avec. Il a vu les faits. Les disciples étaient des témoins oculaires des miracles. Ils étaient des témoins oculaires et auditifs de l'enseignement de Jésus-Christ. Mais est-ce qu'une personne qui vit une expérience proche de la mort, qui a une vision, est un témoin oculaire du ciel? Ouf, faut faire attention. Et c'est un terme qu'ils utilisent et qui a fortifié leur foi, l'expérience de leur fils, puisque ça semblait corroborer les choses qu'ils lisent dans les Écritures. Ça les a encouragés. Et ils ont vu ça comme un cadeau de Dieu. Que Dieu nous fait le cadeau d'avoir, que notre fils a vécu cette expérience-là, ça a fortifié notre foi encore plus dans les Écritures. Et il le dit quand il fait des conférences sur le ciel, il parle des Écritures. Ce que les Écritures disent sur le ciel. Et ça, c'est très important. Et donc, les accusations à ce niveau-là, il y a cette phrase-là qui est fatigante, effectivement, auquel il faut faire très attention. Les expériences psychologiques, fantaisies, proches de la mort, peuvent y jouer un grand rôle d'influencer ce qui est vécu. Si on prenait chacun de nos rêves qu'on vit, c'est embêtant, là. Il y a des rêves qu'on vit, là, puis ça a l'air vraiment vrai, là, hein? On se réveille, les palpitations, on vit quelque chose d'intense, on se lève en sueur, on se lève en criant, on est dans le rêve, puis on se voit, on n'est pas capable de faire ce mouvement-là, là, on n'est pas capable de se défendre, puis on est frustré de tout ça, puis on se réveille. « Ah, oh, merci Seigneur, c'est pas arrivé pour de vrai, là, tu sais. » C'est troublant, nos rêves qu'on peut avoir. Et donc, une vision du ciel aussi, aussi vrai que ça peut être, et pour l'être humain qui l'entend, le récit, il faut faire attention, c'est embêtant, parce qu'effectivement, l'expérience vécue, peut être très troublante, très, très, très prenante et convaincante. Il faut juste faire attention, dire, écoute, on va le vérifier avec ce que la Bible dit, puis en même temps, si c'est en harmonie avec les Écritures, dire, c'est dans le domaine du possible. Mais en même temps, heureusement, j'ai la parole de Dieu. Et c'est elle qui est source d'autorité, qui m'aide à filtrer tout ça. Et si Dieu a donné une expérience à quelqu'un, et ce qui est un peu difficile aujourd'hui, c'est que, il y a 1000 ans, là, si petit Burpo, là, Colton, a vécu son expérience, la famille Burpo, en passant, c'est leur nom de famille, là, vu une expérience à Saint-Thomas-Didyme au Lac-Saint-Jean, là, tu sais, t'en entendais pas parler, là. Bon, Saint-Thomas-Didyme n'existait pas il y a 1000 ans, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, OK? C'est que t'en entendais pas parler, right? On n'avait pas la médiatisation des informations, même le journal local, il n'y en avait pas. Donc, les expériences que les gens pouvaient faire avec Dieu particulière restaient vraiment quelque chose dans la famille locale où les gens n'en parlaient pas du tout, la peur du jugement des autres. Aujourd'hui, on doit gérer avec des gens qui nous bombardent d'informations de partout sa planète. Puis Joe Blow a vécu une expérience spéciale, il écrit un livre, puis là, c'est un best-seller à New York, puis là, t'es bombardé de ça un peu partout, tout le monde en parle, puis tout ça, puis là, il y a un autre qui vit quelque chose là-bas en Arabie Saoudite, puis là, t'en entends parler jusqu'ici, mais c'est pas dans ta langue, c'est traduit, puis là, t'as le livre ici, c'est sur l'Internet, t'as quelqu'un qui en parle ici aux États-Unis, puis là, tu vas voir le lien, puis là, t'as tellement d'informations que ça devient, là, que quelqu'un pète là-bas, tu n'entends parler jusqu'ici, tu sais. C'est comme toute l'information, on a tellement d'informations que ça devient submergent. Et difficile aussi, Mané, de gérer toute cette information-là que, il y a déjà juste 20 ans, on n'avait pas à gérer autant. Right? Puis il y a 50 ans, encore moins. Et il y a 100 ans, encore moins. Et là, nos enfants sont exposés aussi à cette sur-information-là qu'on doit gérer autour de nous. Vous comprenez le défi? Et donc, il y a des gens qui ont vécu des expériences à toutes les époques. Certaines, je crois, qui sont probablement vraies, qui ont vécu où ce que Dieu les a encouragés, leur a parlé d'une manière quelconque et qui étaient illettrés, ils ne pouvaient pas lire. Le Seigneur leur a parlé, il trouvait un moyen de leur parler parce que le Seigneur, quand il appelle, il amène à lui. Et chacun reçoit à différentes manières un appel du Seigneur qui montre qu'il existe, qu'il est là et chacun a des choix à faire. Mais certains ont reçu des expériences. Puis pourquoi un a vécu une expérience, eu un songe à un moment donné, vécu, je ne sais pas. Mais c'est une chose, le Seigneur est souverain sur toute chose, il est au contrôle, il peut le faire comme il veut. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vit quelque chose, tu en entends parler partout. Et c'est un gros défi dans notre monde en 2014 de gérer cette surabondance d'informations que doit gérer le croyant et les gens d'un peu partout. Maintenant, j'aimerais vous lire ceci. Et on va mettre le PowerPoint, j'ai quelques versets que j'aimerais partager avec vous. Dans Timothée, il dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre notre Seigneur, ni moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Pour l'Évangile, souffre avec moi. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, pas parce qu'on a mérité quoi que ce soit, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce, un cadeau qu'il nous accorde, qui nous a été donné en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et ce qui fait la différence à travers tous les siècles et toutes les religions, aucune d'elles, et si on ne veut pas parler de religion, on parle juste de Jésus-Christ, tout simplement. Personne n'est venu nous enseigner comme Jésus, qui est revenu des morts et qui a battu la mort. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand on regarde les Écritures, il y a un autre petit traité en passant en arrière, quand vous allez sortir, sur la question de la résurrection. Okay? Et vous pouvez le prendre pour lire sur la résurrection. Est-ce que c'est crédible? Et si vous avez des doutes ce matin, je vous invite en sortant à gauche, il y a une petite place avec plein de petits traités, il y en a un sur la résurrection. Si ce n'est pas là cette semaine, elle va être là la semaine prochaine. 500 témoins, et tout ce que la Bible dit est crédible sur la résurrection de Jésus-Christ. Aucune. Parle de Mohamed, parle de Bouddha, parle de toutes les autres religions à travers le monde entier. Jésus se démarque comme le seul se disant « Fils de Dieu ». Qui a vaincu la mort, qui est revenu de la mort et qui dit que sa mort était pour rapprocher l'être humain et lui faire un pont entre cet être humain-là, pécheur et Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a rien de comparable de ce que la Bible et le christianisme enseignent. C'est quelque chose d'unique qui est construit sur l'œuvre de Jésus-Christ comme sauveur. Et qui donc assure à celui qui croit en Jésus que celui qui est ressuscité des morts peut donner à celui qui croit en lui la résurrection des morts. Sinon, il n'y a aucune raison à croire à la résurrection si celui dans lequel on croit n'a pas vaincu la mort, n'est-ce pas? Et c'est à la base de l'Évangile. Également, prochaine diapo, l'Ecclésiaste nous dit ceci. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, qui réfléchit sur la mort et toutes ces questions-là, on en a parlé dans le mois précédent. On dit qu'il fait tout Dieu, toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans leur cœur de l'être humain, on parle ici, la pensée de l'éternité. Tout être humain sait qu'il y a une vie qui continue. Il y a une pensée qui est là, que Dieu a mis dans tous les êtres humains, qu'il y a une éternité. Certains essaient de l'étouffer, d'autres l'étudient, ils vont un peu partout pour essayer de trouver des réponses. D'autres ont trouvé une réponse dans la personne de Jésus-Christ et ce que les Écritures enseignent. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Il y a une pensée d'éternité là qui trouble l'être humain, qui l'amène à faire des recherches, qui veut des réponses, vivre des expériences, et qui pourtant ne saisit pas complètement. Mais l'Ecclésiaste nous montre bien que celui qui répond à toutes les questions de l'Ecclésiaste, c'est la personne de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, qui, lui, nous aide à comprendre la question de l'éternité, la question du ciel qui existe pour de vrai, d'une vie qui continue après la mort, et pour lequel on fait bien de placer notre espoir en Jésus-Christ pour celle-ci. Prochaine diapo. Dans le livre, j'ai mis quelques exemples de ce que le jeune homme dit raconter. Il parle d'avoir vu Jésus avec un vêtement blanc, puis il était tout en blanc spécial. Puis il dit, il y avait un écharde, lui, un peu rouge. Mais c'est juste Jésus qui l'avait. Il n'était pas capable de dire le mot écharde, fait qu'il disait toujours, il y a une couleur ici, là. Il faisait, mais il ne savait pas c'était quoi le mot écharde. Il dit, mon fils a appris le mot écharde, il avait 10 ans. Fait qu'il décrivait, fait qu'il fallait toujours décoder un peu ce qu'il racontait. Puis il dit, ça me fait penser à ce que la Bible disait dans Marc chapitre 9, justement, qui raconte le linge de Jésus qui était d'un blanc comme il ne se trouve pas sur la terre. Pur. Ensuite, il parle des couleurs dans le ciel. Il dit, au ciel, c'est plein de couleurs, les couleurs arc-en-ciel, etc. Et la Bible nous parle dans le ciel de ces couleurs qui se trouvent là partout. Et donc ici, il raconte les différentes couleurs. Il parle d'un fondement en jaspe, en saphir, troisième en calcédoine, en émeraude, sardes, etc. Toutes sortes de noms que je vais m'accrocher dessus, que je ne vous répéterai pas, que vous êtes capable de lire. Et il y en a une douzaine ici, qui sont toutes différentes couleurs et que la Bible nous décrit qui sont dans le ciel, ces couleurs-là. Il parle aussi, à un moment donné, il dit, au ciel, est-ce qu'il y a une lune? Il dit, non, c'est Dieu qui est la lumière. Exactement ce que la Bible raconte sur le ciel. Harmonieux avec ce que l'Apocalypse nous révèle. Prochaine diapo. Nous parle aussi de sa vision de Dieu sur le trône, etc. Et la Bible dit ceci, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. » Dans Apocalypse chapitre 21 qu'on a lu récemment avec Yvan Godreau qui nous parlait du ciel justement. « La ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle ou la temple ou l'habitation de Dieu avec les hommes. » Donc, le ciel est cette habitation-là où ce que Dieu habite avec les hommes. Il habita avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme des yeux. Peu importe les souffrances qui ont été vécues, ils vont être essuyés maintenant et il n'y aura plus de larmes. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Les premières choses étant les choses de la vie terrestre, les choses de la vie où ce qu'on est pris dans le temps, où ce qu'on est confronté à la mort parce qu'on s'est rebellé contre Dieu depuis la création du monde. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il dit un peu plus loin, au verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant sera son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Et chose intéressante, en lisant ce qu'il racontait à son père par petits bouts, puis le père interrogeait, puis essayait de ne pas mettre des mots dans sa bouche pour essayer de voir qu'est-ce qu'il allait dire de lui-même sans l'influencer. Et des petites brides sortaient, toujours en harmonie de ce que j'ai pu lire, du moins dans le livre, en harmonie avec ce qu'on lit justement dans les Écritures sur la fin des temps. Et plein d'autres informations, par exemple l'apparence des anges ou des croyants avec une lumière sur la tête. Et on lit des choses semblables lorsqu'on pense à Étienne, sa mort, lorsqu'on pense aux anges qui sont apparus aussi à Marie de Magdala, lorsqu'elle a vu, est allée voir le tombeau de Jésus et qu'il y avait des anges. Et ce linge et cet éclat dans le visage de ceux qui annonçaient. Beaucoup de choses en harmonie. Et je penserais dire que ce qui s'est dit, on doit le croire. Je veux dire que ceci est pour vérifier ce qu'il dit. Prochaine diapo. Et il n'y en avait plus. Bon, c'est bon. Je ne me rappelais plus, là. Et plusieurs autres informations sur la guerre à la fin des temps, etc., racontent des choses qu'on retrouve aussi dans les Écritures et qui nous amènent à se poser des questions certaines. Maintenant, j'aimerais vous lire ce que lui en tire de son expérience lui-même. Une toute petite portion de 2-3 chapitres. Non, c'est des blagues. 2-3 paragraphes. C'est agréable de parler du ciel, du trône de Dieu, de Jésus, de Papy et de la fille que nous croyons être perdue, mais que nous retrouverons un jour. C'est toutefois désagréable de parler de ce qui nous y conduit. Le souvenir de ces jours terrifiants où nous avons regardé Colton se cramponner à la vie nous a fait encore monter les larmes aux yeux, à Sonia et moi. Le nom de son épouse est Sonia. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire miraculeuse de sa visite au ciel et le fait d'être passé près de perdre notre fils sont un seul et même chose pour nous. Donc, quelque chose de beau et quelque chose de terriblement souffrant. Lorsque j'étais enfant, je me demandais tout le temps pourquoi on faisait tout un plat avec la croix, la crucifixion de Jésus-Christ. Si Dieu le Père savait qu'il ressusciterait son fils de la mort, pourquoi... En quoi était-ce un sacrifice s'il savait d'avance? Je comprends maintenant toutefois que Dieu n'associe pas la Pâque uniquement à la dernière étape qu'au tombeau vide. Je comprends tout à fait. J'aurais fait n'importe quoi pour mettre un terme aux souffrances de Colton, y compris prendre sa place. Ça l'aide à comprendre plus ce que le Père a vécu vis-à-vis son Fils Jésus-Christ qui l'abandonnait, même s'il savait ce qui se passait, la souffrance qu'il vivait. La Bible dit que tandis que Jésus rendait l'âme, qu'il était suspendu là sur une croix romaine, Dieu lui a tourné le dos. Je suis convaincu qu'il a agi de la sorte parce qu'il avait, s'il avait continué de regarder, il aurait été incapable d'aller jusqu'au bout de voir cette souffrance-là. Une plus grande compréhension du sacrifice de Christ, c'est ce que le Père a vécu à cette occasion-là. Il dit également ceci, à la toute fin, dans les deux dernières pages, il dit « La première chose que Sonia et moi vous direz à ce sujet, qu'est-ce qu'ils ont appris, c'est qu'elle nous a complètement brisés. En effet, le pasteur et leur famille sont généralement plus à l'aise dans le rôle d'aidant et d'aider. Sonia et moi avons toujours été de ceux qui, en période difficile, rendaient visite aux malades, livraient des repas, prenaient soin des enfants des autres. Nous comptions uniquement sur nous-mêmes en y repensant au point de tirer de l'orgueil. Cependant, cette terrible épreuve à l'hôpital a cassé notre orgueil comme une brindille sèche et nous a enseigné à nous montrer assez humbles pour accepter l'aide d'autrui sur le plan physique, émotionnel et financier. C'est bien de se montrer fort et capable de bénir d'autres. Oui, mais nous avons découvert qu'il est bon de nous montrer assez vulnérables pour permettre aux autres d'être forts à notre place. Et à un moment donné, il partage un livre qui était à terre, qui était éprouvé, vide, puis il a demandé à l'aide de l'Église de prier, puis ils étaient 80 à l'Église dans une réunion spéciale, prier pour lui, et que le Seigneur avait répondu à leur prière, il l'avait fortifié dans sa foi, alors qu'il était fatigué, épuisé et vacillant dans sa foi. Et cela, en définitive, s'est révélé être une bénédiction pour eux aussi. L'histoire aussi de Colton a changé d'une autre façon également. Nous sommes maintenant plus audacieux. Nous vivons à une époque où les gens mettent en doute l'existence de Dieu. En tant que pasteur, je me suis toujours senti à l'aise de parler de ma foi. Mais maintenant, en plus, je parle de ce qui est arrivé à mon fils. C'est la vérité et j'en parle sans m'en excuser. Quand il parle de la vérité, oui, il est convaincu de ce que son fils a vécu, mais il est convaincu que ce que les Écritures disent sur le ciel surtout est vrai. Et c'est ce que je voulais vous lire. La Bible dit que Jésus a raconté ceci, et j'oserais dire si Jésus ne l'avait pas dit lui-même. Dans le chapitre 14, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Quand il parle de la vie ici, dans le livre de Jean, on parle de la vie éternelle. Il dit qu'il est le chemin, la seule source de vérité pour connaître ce chemin et que ce chemin donne la vie et qu'elle vient de lui, que cette vie, elle est éternelle et nul ne vient au Père que par lui. Peu importe qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec le livre, à la fin de la journée, on revient à la personne de Jésus-Christ, celui dont il parle le plus dans ce livre et qui est exprimé comme étant l'autorité en toute cette matière-là et qui est la source de la vie éternelle. Et il nous dit qu'il nous a acquis une place auprès du Père lorsqu'on croit en lui et qu'on va être avec lui pour toujours. Et qu'il nous décrit différents endroits dans la Bible ses vérités sur le ciel et ce qu'il y a après la mort. On en voudrait un petit peu plus. On voudrait des réponses à nos questions. Et ça peut être intéressant de piger dans les expériences des autres et voir s'il y a des réponses à mes questions. Mais à la fin de la journée, Dieu dit qu'on a tout ce qu'il nous faut ici avec la personne de Jésus-Christ. Mais il faut faire un choix. Jésus dit que cette vie passe par lui. Jésus est mort et ressuscité. Il l'avait annoncé plusieurs fois et devant plusieurs témoins. Et le récit de la résurrection est décrit en détail dans la Bible avec plus de 500 témoins oculaires d'avoir rencontré Jésus après sa mort à cette époque. Et comme je vous ai dit tantôt, il y a deux dépliants en arrière qui se veulent vraiment contribuants sur cette question-là. Jésus n'ayant pas péché lui-même a vaincu la mort, qui n'a pas eu le pouvoir sur lui. Et la Bible dit des fois que c'est Jésus qui s'est ressuscité lui-même. Des fois, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. Des fois, on dit que le Père l'a ressuscité. Des fois, il est écrit « Dieu l'a ressuscité ». Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de Dieu comme un Dieu trinitaire. Hein? Et toute la personne de Dieu était dans cette activité de résurrection qui a amené Jésus-Christ à battre la mort, lui n'ayant aucun péché. Ayant vécu cette vie sans péché, étant un frère pour nous et ayant la possibilité maintenant de payer à notre place qu'on méritait pour notre péché, c'est-à-dire la mort. Et même si moi, Joël Lapierre, j'aurais payé pour mes péchés, je n'aurais pas pu acheter le pardon pour la souffrance de la croix pour mes péchés. J'aurais juste payé pour, mais ça n'aurait pas acheté rien parce que je n'étais pas parfait. Je n'avais pas le pouvoir de rachat. Mais Jésus avait le pouvoir de racheter mon âme. Nos âmes. Il est fils de Dieu, Dieu incarné en homme sur terre, donc mieux qualifié, hors de doute pour nous dire ce qui en est avec autorité. Et Jésus dit ceci dans le chapitre 7 de Matthieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Cette même vie que Jésus parle comme étant lui-même la vie éternelle. Et il y en a peu qui la trouvent. Pas parce qu'elle est dure à trouver, parce que le cœur humain a de la difficulté à aller voir celui qui en a la réponse. On veut la trouver nous-mêmes, par des moyens humains qu'on mérite, et non par Jésus-Christ seul. Pour le chrétien, ce matin, voici les choses que j'aimerais que vous reteniez. De un, nous pouvons regarder l'avenir sans crainte, la Bible nous dit, avec ces textes qui nous parlent du ciel. Si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ seul pour le pardon de nos péchés, après lui avoir demandé pardon pour nos péchés et lui avoir demandé de nous prendre comme son enfant, nous pouvons être encouragés dans les épreuves et les limitations que nous avons ici-bas, que nous en serons complètement libérés après la mort ici-bas, peu importe votre état physique. Ça ne durera qu'un temps. Nous n'avons pas à avoir peur de la mort physique, ce qui nous permet de vivre librement. Si on a peur de la mort physique, on ne vit pas librement. On peut vivre librement pour notre Seigneur, mort à nos péchés. On n'est pas obligé de vivre esclave de nos péchés. On a la possibilité de vivre librement pour Dieu et libre de toujours être contrôlé par nos péchés en Jésus-Christ. Nous pouvons aussi être libres de parler de notre Seigneur et de le servir sans avoir la crainte des hommes et leur réaction envers le message de l'Évangile qu'on porte. Nous pouvons être confiants dans l'amour parfait et la justice complète de notre Seigneur pour les gens que nous avons perdus et pour les questions à cet égard, qui ne sont pas répondus. Nous avons suffisamment pour cela. Il y a toujours des réponses qui resteront non répondues. Toujours. Et c'est ça qui fait que ça teste notre foi. Il faut retourner à Dieu avec nos questions non répondues. Et probablement le jour qu'on va le voir face à face, on va peut-être trouver nos questions non répondues ridicules. Ils vont se répondre d'eux-mêmes. Parce qu'on n'aura plus la même vision des choses quand on verra Jésus-Christ au ciel qu'on verra le Père au ciel face à face. La Bible nous dit que cette expérience-là va faire des choses très différentes pour nous. Et Paul en parle. Et même Paul, vous savez, qui a vécu l'expérience, il dit, d'avoir été au ciel, d'avoir vécu une expérience. Et ceux qui ont lu les épîtres de Paul dans 2 Corinthiens savent que Paul a vécu une expérience qui dit, qui ne m'est même pas permis d'exprimer. C'est-tu dans mon corps? C'est-tu en esprit que j'ai vécu? C'est pas clair. Même l'apôtre Paul, qui a vécu une expérience spéciale, ne prend pas son expérience comme autoritaire. Il ne nous le partage pas. Il garde, et je compte comme d'autant plus sûr ce qu'il avait en Jésus-Christ déjà, comme expérience de conversion et tout cela. C'était suffisant. Assez intéressant de lire 2 Corinthiens, chapitre 12, et ses premiers versets. Face à ces expériences-là, hors du corps, ces expériences-là, proches de la mort. Et Paul dit, pour lui, qui l'a vécu, pourtant, ils ne sont pas source d'autorité. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Alors, je vous invite à prier avec moi ce matin. Et s'il y a des questions qui vous sont venues à travers ce que je vous partage ce matin, c'est bon d'avoir des questions. Amenez-les au Seigneur. Si vous voudriez qu'on en parle, ça me ferait plaisir d'en jaser avec vous. Évidemment, le but, ce n'est pas de répondre à toutes les questions parce que je ne peux pas. Et on ne peut pas répondre à tant de questions que ça en quelques minutes. Mais de porter votre pensez vers une réflexion pour demander au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à apprécier plus ces promesses, à comprendre davantage ce que la Bible me dit sur le ciel, sur cette espérance que j'ai après la mort. Je ne veux pas être pris dans toutes ces fabulations-là que je vois dans les films qui minent ma vision du ciel. Je veux être encouragé, avoir la foi dans ce que la Bible dit. Je veux étudier plus ce que la Bible a à dire sur le ciel pour vivre avec cette espérance. » Et avec audace, avec confiance dans ce que la Bible me donne. Prions ensemble. Père Céleste, ce matin, je suis conscient que même si on a parlé du ciel, peut-être plusieurs personnes dans cette salle n'ont pas encore fait l'expérience de vivre la paix avec toi, d'avoir réglé leur compte avec toi, Seigneur. Et s'il y a une chose que j'apprécie d'ailleurs dans le livre, le petit Colton mentionne être préoccupé pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, parce qu'il disait, sans Jésus, ils vont aller, ils n'iront pas au ciel. Et même, ils parlent de l'enfer. Et je n'oserais, Seigneur, croire cela si ce n'était que le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit dans l'Évangile, qu'il y a ce lieu d'enfer, ce lieu éternel avec toi, Seigneur. Un lieu sans toi et un lieu avec toi pour toujours. Et Seigneur, tu nous dis qu'ici-bas, il y a un choix qu'on doit prendre. Et je te prie, Seigneur, pour ceux et celles qui ce matin combattent avec ce choix de croire en toi, combattent avec ce choix de te laisser la place et de croire dans ce que Jésus-Christ a fait, de croire dans cette destinée éternelle que tu as mis dans le cœur de l'homme, de savoir qu'il existe et qu'on ne comprend pas tout et qu'on tente de l'expliquer, mais que seulement toi, Seigneur Jésus, peux expliquer pleinement, d'une manière satisfaisante pour le cœur humain. Seigneur, que celui ou celle qui combat avec ça ce matin puisse être pris de conviction de ta part. Et que s'il y a un moment de décision qui doit être pris ce matin, que peut-être cette prière peut aider. Seigneur, je veux te demander pardon pour mes péchés. Je veux accepter ce que la Bible dit sur Jésus. Je veux croire en lui et accepter ce qu'il m'offre gratuitement, le pardon de mes péchés. Je veux y croire ce matin et te demander de me pardonner, de me prendre comme ton enfant et que tu puisses prendre ma vie, en faire ce que tu veux parce qu'elle était perdue de toute façon. Je veux te la donner, Seigneur, et que tu en fasses ce que tu veux, s'il vous plaît. Peut-être ce matin, vous vous êtes refroidi dans votre foi et l'espérance du ciel est un peu loin. Et pour être honnête, on n'y pense pas souvent. Et peut-être vous voulez faire cette prière. Seigneur, je te demande pardon parce que je lis peut-être pas assez les Écritures ou je ne suis pas en train de passer du temps assez régulièrement avec toi pour que tu me nourrisses de ta pensée. Je suis pris dans toutes sortes de films, dans tous les divertissements du travail, les occupations, et je ne passe pas du temps à réfléchir à la vie que je vais avoir avec toi pour toujours et comment cette vision-là de la vie que la Bible me donne la liberté après ça de vivre pour toi épanoui. Je ne vis pas cet épanouissement, je suis poigné en dedans. Seigneur, veux-tu faire un œuvre, s'il vous plaît, de guérison dans mon cœur, me réchauffer pour que j'aille plus près de toi, que je te fasse davantage confiance, que je lise plus dans la parole pour me rappeler ces vérités, que je passe plus de temps à parler, à être écouté dans la tranquillité. J'ai tellement tout le temps de la musique, la radio, les discussions, les vidéos, que j'ai jamais de temps tranquille avec toi. Et ce matin, je voudrais prendre du temps tranquille avec toi pour que toi, tu me parles et que je puisse grandir à te connaître de mieux en mieux et surtout connaître ton Fils et ses plans merveilleux pour moi, afin que sur terre, je puisse vivre bien avec ton aide pour toi. Oh Seigneur, entends nos prières ce matin, peu importe nos états d'âme, peu importe nos combats, peu importe tout ce qu'on est, et qu'on puisse ce matin avoir une pensée, Seigneur, avec toi, de cette destinée qu'on va avoir pour toujours. Suis-je prêt ce matin? Suis-je prêt à te rencontrer, Seigneur? Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen.